L'ensemble donc des recherches actuellement permettent de voir que l'histoire des villes balnéaires débute sur les côtes européennes. Tout au moins, c'est encore ce qu'on croit. On n'a peut-être pas exploré l'ensemble, mais on peut dire que ça débute fin XVIIe, début XVIIIe siècle, et que, bon, jusqu'à présent, c'est notre corps de doctrine, jusqu'à preuve du contraire. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu d'histoire balnéaire auparavant, hein, puisque on a des termes romains, par exemple, qui sont fouillés au bord du littoral, etc., mais on se tient à la période moderne. Les cercles aristocratiques, entre guillemets, britanniques, puis français, mais également de l'ensemble, donc, de ce qu'on peut appeler l'Europe à l'époque, cultivent l'idée de séjour temporaire au bord de mer pour prendre les eaux, comme dans les villes thermales, et bénéficier des bains d'eau de mer à la lame, donc avec le maître baigneur qui prend donc pour faire suffoquer le baigneur, hein, bon, mais tout le monde connaît l'histoire, mais également ensuite le bon air, le repos, et surtout et avec la distraction, puisque le divertissement fait partie de la cure et donne naissance donc à la station balnéaire moderne à vocation thérapeutique puis ensuite ludique. Au niveau des approches historiques, il faut bien donc mettre donc des tiroirs historiques qui valent ce qu'ils valent, hein, mais bon, il faut quand même se dire que pour la France, les premiers éléments, c'est vers 1760 qu'on peut commencer à les rencontrer. Il y a peut-être quelques éléments antérieurs, mais entre 1760 et 1850, on peut dire que on a une naissance des éléments de stations d'hiver et d'été, mais qu'on n'a pas réellement entrepris la balnéarisation de l'ensemble du littoral français. On n'en est qu'à des balbutiements, à des expérimentations. Merci. Et donc on est là dans une première phase d'essai. Le véritable essor va être un essor politique et économique pendant le Second Empire. Et c'est là que on va tester réellement la machine à construire et que l'on va réellement avoir un modèle de station à la française. Ensuite, la guerre de 70 va marquer un brutal arrêt et le dynamisme économique va être stoppé pendant une dizaine d'années, mais va reprendre de plus belle. Ça va être la belle et grande époque du balnéaire entre les années 1880-90 jusque à la Première Guerre mondiale. Pendant l'entre-deux-guerres, on va pas innover, mais par contre, on va enrichir la machine. Des derniers feux des années folles, mais la crise de 29 va donner un brutal arrêt, de même que les autres crises monétaires d'autres pays vont aussi, puisque ces personnes-là venaient chez nous, va aussi entraîner des arrêts. Mais on va aussi au niveau économique, puisque avant la guerre de 14, on a permis donc de pouvoir avoir un casino dans toutes les stations balnéaires. Le casino va quand même permettre de continuer à faire marcher la machine. Mais on va changer de clientèle à partir des années 30. Et au lieu d'une clientèle de rentiers simplement, on va commencer à s'orienter vers un tourisme de masse, mais très lentement par rapport à d'autres pays européens. Et enfin, dans la dernière période, après la guerre, on va avoir un plein épanouissement d'un tourisme de masse et on pourrait également avoir une sixième, on pourrait rediviser cette dernière période en deux parties, c'est-à-dire la période, en gros, avant la crise pétrolière, la période donc des Trente Glorieuses jusqu'aux années 1973-75, et ensuite une période qui irait jusque l'an 2000-2010. Mais bon, cinq périodes, c'est déjà bien. On peut éventuellement faire une sixième, si vous le désirez. Mais bon, c'est déjà... Donc, la première période, c'est la naissance en France, donc, des stations d'hiver et d'été. Dès le début, donc, du XVIIIe siècle, en Angleterre, les bains aux effets curatifs sont mis au goût du jour. Grâce au renouvellement des stations thermales, et particulièrement, notamment, à Bath, des médecins comme le docteur Richard Russell prônent les vertus thérapeutiques du bain de mer par immersion. Et donc, on a le rôle important de cette suffocation qui permet de pouvoir enlever du corps toutes les méfaits et les maladies. Et la machine, l'outil important inventé, je ne sais pas qui l'a inventé, mais peut-être que certains d'entre vous le diront, mais la machine infernale pour rentrer dans l'eau, c'est cette machine qui est là, machine qui a été reproduite, recopiée. On envoie des architectes français en Angleterre jusque dans les années 1860. Donc pendant un demi-siècle, quand on veut établir une station balnéaire, eh bien, on essaye de recopier cette machine. Et comme les architectes français, ben, il n'y a pas de cahier de modèle encore, eh bien, on envoie donc par bateau. Donc, on voit bien l'architecte des Sables-d'Olonne en 1830, eh bien, prend le bateau pour aller recopier. Et là, c'est pareil. Ici, c'est à Trouville. Jory recopie un élément et va en Angleterre. Donc, il faudrait retrouver ces carnets de voyage là. Pourquoi il copie tel ou tel élément? Et notamment, il copie pas l'élément de la capote, qui était très significatif. Donc, il y avait une capote, ici, qui se refermait en partie. Et on descendait, donc là, on montait ici. Et il y avait plusieurs systèmes de marchepieds ici. Et ce système-là va être recopié au moins depuis les Pays-Bas, mais peut-être plus haut, je ne sais pas si en mer Baltique on a ce système-là, on verra, mais en tout cas, il va être recopié sur l'ensemble, en tout cas, de la façade nord et ouest de l'Europe, et on va l'avoir aussi, ce qu'on ne savait pas vraiment, en Méditerranée. La question est, à Walter, est-ce qu'en Italie, on avait ça aussi, ou est-ce que aussi en mer Noire, on l'avait. Jusqu'où va le rayonnement de cet outil? Parce que à partir de là, c'est toute une pratique et toute une architecture qui en découle. Donc c'est intéressant d'avoir, un catalyseur, enfin un marqueur qui permet de voir quelle est la pratique. Donc on descendait, on était accueilli par un maître baigneur et suivant la prescription, on avait une, deux fois, trois fois, et puis on était à moitié noyé, groggy, etc. Donc on remontait là, et puis on essayait de se remettre de ses émotions, mais toutes les miasmes de la ville permettaient de partir. Voilà un peu ce que le docteur Russell et les fameux docteurs anglais avaient inventé pour donc enlever les maladies des rentiers de la ville. Donc ce type d'équipement n'est pas le seul. On faisait également, ce qui est important, c'est qu'avec ce marqueur, il y avait le piers et il y avait la promenade le long de la digue parce qu'il fallait respirer le bon air en même temps. Et donc il y avait un compendium d'outils pour pouvoir faire sa cure en bord de mer. J'irai pas dire qu'il fallait aussi l'accompagner d'une mise en situation en crescent, peut-être, Mais en tout cas, ça allait jusque-là. Et donc, les Anglais nous ont appris, en tout cas, c'est ce que nous, Français, on croit, la façon donc de prendre le bain au bord de l'eau. Parallèlement, donc, dans les années 1760, donc, les révolutions industrielles, notamment, là aussi, il faut le vérifier, permettent donc de pouvoir proclamer les loisirs des personnes qui pouvaient donc le faire, donc aristocrates et rentiers, et on pourrait dire, en tout cas, comme hypothèse, que dans toute l'Europe, on adopte ce système, avec des colonies d'hivernants qui viennent au bord de l'eau. Dans ces mêmes années, donc, la présence saisonnière des Anglais est attestée, donc voilà à Margate, donc l'hôpital qui est à la fin du XVIIIe siècle permet d'accueillir les malades et également à Brighton, donc un des lieux forts en tout cas du balnéaire qui permet de voir que si d'un côté on a une architecture néoclassique très rustique et austère, l'antidote du divertissement, ça c'était pour le soin, on dirait, hein, on va essayer de réduire un peu le discours, ça c'était pour le soin, mais le divertissement, on allait chercher dans le pittoresque, dans l'exotisme et dans l'ensemble des éléments qui viennent donc des colonies anglaises, soit de l'Inde, soit de Chine, avec le décor néo-chinois intérieur, donc ici. Pour la France, on a, dans ces mêmes époques, les premières colonisations anglaises sur la Riviera et qui continuent la Riviera italienne, et à la fin du XVIIIe, des colonies d'Anglais à Nice et ailleurs sont à l'origine des stations d'hiver qui sont recherchées pour leur valeur climatique plus que pour les valeurs du bord de mer, mais on sait qu'on prenait aussi des bains dès la fin du XVIIIe siècle dans ces bathing machines à Nice par exemple. L'essor de la villégiature en bord de mer donnera donc naissance à une forme urbaine inédite, la station balnéaire d'hiver et d'été, associant donc ces deux volets de la villégiature, médicale et donc des divertissements. Les premiers quartiers sont bâtis en France en pairie des villes existantes dès 1834. Donc Lord Brougham, un chancelier d'Angleterre, en route pour la Riviera italienne, s'arrête donc à Cannes, donc à la frontière donc du comté de Nice. Et donc il bâtit par exemple cette ville-là et tout autour on a une petite colonie mais qui n'est pas en bord de mer, qui est sur le haut, hein, pour respirer le bon air. Mais aussi c'est vraiment une colonie, donc on vient avec l'ensemble des pratiques. Et on vient bien sûr avec l'église anglicane, de même que les Russes après viendront avec l'église orthodoxe, de même que on viendra avec son temple protestant et avec l'ensemble donc des pratiques pour une petite communauté qui vit en autarcie. Encore faut-il savoir, et on a commencé à en parler hier, quelles étaient ces règles des cercles autarciques des colonies et sont-ils si autarciques que ça? C'est pas évident. En ce qui concerne donc cette période 1760-1820, on n'a pas encore de grands investissements. On a des personnes qui ont suffisamment d'argent pour construire un établissement de bains, c'est tout. Et à Dieppe, au Havre, à Trouville, à Granville, à Arcachon, à Biarritz, les installations sont légères. On n'a pas d'assurance de pérennité. Et on voit que tous les 2-3 ans, on reconstruit d'abord des éléments en bois, souvent, et puis des éléments qui, à partir des années 20, commencent à être en dur. Mais faut pas s'imaginer une station. comme on peut en avoir en Angleterre. On n'a simplement que quelques éléments comme ça dispersés à l'extérieur souvent des fortifications ou des remparts, mélangés avec le port souvent, on le voit pour le Havre, hein, avec les activités portuaires, et on a un petit établissement, c'est tout. Mais c'est pas vraiment encore une grande station. On est mélangé avec les pêcheurs, avec les activités industrielles, et c'est vrai que au niveau de l'hygiène, bon, il y a toujours des querelles parce que bon, les pêcheurs mettent leurs filets juste devant les baigneurs, etc. Donc on voit tout ça. Donc ces quartiers d'hivernants commencent à prendre un petit essor sous la Restauration. Et on commence à avoir les premières promotions, la duchesse de Berry, la duchesse d'Angoulême, etc., qui jouent un peu les roulements de tambour pour dire, voilà, donc l'aristocratie se baigne, enfin des membres de l'aristocratie plutôt, se baignent à tel ou tel endroit, et on fait des relations de voyage, on fait des petits guides avec ça, etc., pour faire la promotion. La caractéristique de ces premières stations est d'être influencée par le goût romantique du pittoresque, qui apprécie surtout la déambulation, comme la déambulation est un principe fort, la promenade de la station thermale, la déambulation est aussi un principe fort des premières stations. Il fallait, on buvait de l'eau, on prenait son bain, mais on buvait de l'eau, il fallait éliminer, et la promenade, on sait bien, donc permet donc cette digestion et cette régulation du corps. Et donc on avait, en même temps que l'établissement de bain, très souvent une digue promenade pour bien sûr s'ouvrir sur l'espace marin. Et là on a les premiers éléments, ici les bains de Dieppe qui sont peints par Garneret au milieu du 19e et qui reprennent l'établissement de bain des années 1820. Mais tout ça, donc Viviane va vous l'expliquer beaucoup mieux que moi. On a une architecture néoclassique, vous voyez, en trois parties. Le bain est toujours à séparation, le bain des hommes sur un pavillon, le bain des femmes à l'extérieur. Et donc on prenait, pour les Happy Few, on prenait les bains en cabine, bains d'eau de mer en cabine, et quelques personnes pouvaient aussi prendre les bains dans l'eau. Mais on pouvait prendre les bains en cabine et avoir aussi différents types de bains. Donc on mettait avec de l'essence de térébenthine, enfin du lait, de chèvre, etc. Enfin, on pouvait prendre... Là, on a des listes et des listes de bains spécifiques pour je sais pas ce que les chefs pouvaient faire spécifiquement, peut-être pour adoucir la peau ou je sais pas, même enfin bon. Donc il y avait l'eau de mer, mais il y avait toutes les, c'est un peu comme la thalassothérapie aujourd'hui, bon, il y a toutes les soins annexes qu'on pouvait prendre. Il y avait la déambulation sur les galeries et surtout tout de suite aussi les promenades en terrasse pour voir de haut. Ça c'était très important, la déambulation et la vision. Donc tout de suite de la mer, donc la contemplation de la mer, méditation, contemplation, donc il y avait un regard intérieur, mais en même temps une vie en communauté. Parce que sur la digue, il fallait pouvoir être vu, se faire voir, avec dans le corps central toujours un lieu pour la détente, la musique, les cercles, la musique, c'était très important. Il y avait la salle de lecture et la musique et la salle de bal. La musique, comme dans le thermal, fait partie de l'ambiance balnéaire. Alors c'est ce que l'architecture ne dit pas, mais il faudrait quasiment que l'on mette, en tout cas, les airs de musique que l'on entendait. Ça fait partie de la cure, hein, toujours. Et il y avait, dans les stations importantes, minimum deux orchestres. Et il fallait... Certainement, chaque pèlerin, chaque curiste avait au moins deux ou trois moments de musique dans la journée. C'était indispensable d'écouter donc la musique. Donc l'hôtel souvent payait un orchestre, le théâtre payait un autre orchestre, etc. Donc, mais en tout cas, les orchestres se relayaient. Voilà ce qui se passe dans les années 60, mais avant la promenade des Anglais, mais avant, donc c'était une petite, un petit chemin de 4 mètres, entre 2 et 4 mètres, et puis au fur et à mesure, donc ça s'est élargi, élargi, élargi. Là, vous avez l'élargissement des années 60 et les basiques machines qui sont là. En face, donc, des villas anglaises. C'était donc il y avait des éléments en bois pour descendre, parce que ce sont des plages de galets. Hein, donc, il faut toujours voir, en France, beaucoup de galets et de sable. Le sable, on s'enfonçait aussi dans le sable. Donc, avec les roues, il fallait tirer avec des chevaux. Et également, des systèmes plus sophistiqués pour les princes et les reines, etc., à Saint-Sébastien, avec des treuils. Hein, qu'on descendait et qu'on remontait pour pouvoir descendre dans l'eau. Et avec des doubles cabines, quelquefois, enfin bon, on ne va pas faire la typologie de ça, mais c'était important de voir. Voilà un peu la première période, on pourrait en parler davantage. La deuxième période, l'essor des stations sous le Second Empire, ce sont des stations urbanisées. On passe donc des quelques éléments qu'on avait, un hôtel qui pouvait être encore dans la vieille ville, avec un établissement de bain, etc. On passe vraiment à des plans d'urbanisme qui sont faits par des ingénieurs, comme ici, c'est assez amusant, et on voit petit à petit la station naître. Donc autour, ici, de l'élément principal de l'établissement de bain, on a donc d'autres établissements en galerie, des hôtels et des petits lotissements ici paysagers avec des villas tout autour, une petite place, des fontaines, etc. Donc on commence à voir au bord de l'eau un aménagement de station. Ici c'est presque naïf, mais c'est assez intéressant. Donc c'est une image de la fin des années 50 qui est lancée par Numa Sabatier, et qui est lui-même aussi marchand, enfin qui est en liaison et qui est lui-même marchand constructeur de chalets et de bois. Donc il devait construire pas mal d'éléments en bois. Donc en favorisant le lancement des stations, Napoléon III et ses proches encouragent donc cette oisiveté dite aristocratique à s'exposer dans toutes les stations. On l'a vu à Vichy avec les stations thermales, mais également dans les stations balnéaires, et soit Eugénie, soit lui-même vont aller à Biarritz, à Arcachon, etc. Et donc ça va être des lieux forts pour pouvoir encourager les nouveaux espaces urbains de villégiature qui fonctionnent un peu comme des lieux d'apprentissage des relations économiques et sociales basées sur les pratiques de la distinction. Donc là, c'est toutes ces pratiques sociales spéculatives donc vont se mettre donc directement dans l'espace de la ville. Et on va avoir une ville qui va être centrée sur les loisirs. Au niveau de l'architecture, eh bien, ce front de mer sera décoré, on peut dire, par une architecture pittoresque historiciste, néo-Louis XIII par exemple, mais aussi les modèles à l'anglaise, élisabétain. Vous voyez les deux éléments au centre qui ne sont pas des références à la française ou des références à une architecture à l'italienne avec les terrasses ici tout à fait à droite. Et on aura dès les années 60 une architecture régionaliste, des villas pittoresques régionalistes néo-normandes qui vont côtoyer des éléments beaucoup plus exotiques ici, orientalistes, ou des éléments médiévaux. Donc voilà un peu un kaléidoscope éclectique de ces stations. Grande innovation, la station d'hiver construite par les frères Pereire à partir de leur chemin de fer avec le nouveau casino mauresque et le buffet de la gare éclectique, le casino et son kiosque chinois, et l'ingénieur des chemins de fer qui construit des chalets. Les premiers chalets sont construits par Gustave Allot avec un cahier de modèle du chalet pittoresque. Cette référence à l'éclectisme et à l'orientalisme néo-mauresque se voit particulièrement bien dans le premier bâtiment d'établissement de bain de Bertrand de la fin des années 50 à Biarritz, et on peut multiplier ici à Cherbourg aussi, plus près, on a aussi ce type de galerie néo-mauresque. La station d'hiver de Monte-Carlo permet de sauver la principauté du déficit chronique important ce petit territoire, et on commence, Godinot de la Bretonnerie construit l'hôtel de Paris à droite, le casino au centre ici, et Blanc va à la suite donc des succès qu'il a remportés dans les stations thermales comme Bade venir sauver la principauté et faire marcher au niveau économique l'ensemble de cette nouvelle station d'hiver qui a comme locomotive le casino et plus l'établissement de bain. Troisième période de la belle époque du balnéaire, après donc la guerre de 70, on continue, puisqu'on sait que le modèle marche bien, ben on le démultiplie. Ici à Calais, en dehors des fortifications, on construit d'abord le casino qu'on récupère sur un lieu d'exposition universelle. Les bénéfices du casino permettent donc pouvoir construire la digue propre à la construction de villas et les villas ici au fur et à mesure. Donc on voit bien au niveau économique, on installe, les bénéfices permettent de viabiliser l'ensemble et après, puisque donc l'eau est arrêtée par la digue, ça permet de pouvoir mettre des villas et de lotir des terrains de domaines maritimes qui valaient pas cher, qu'on achète, et donc la spéculation peut commencer. L'essor des chemins de fer, aussi bien des lignes internationales que des lignes locales, permet d'avoir un renouveau important de ces stations. Présence toujours dans les stations de beaucoup d'anglais au niveau des investisseurs. Ici, on a un ingénieur anglais, Alexander Blackie William Kennedy, qui d'abord investit et gagne le tramway de Rouen, et avec les bénéfices du tramway de Rouen, achète les Roches Noires, vous savez, madame... Et donc, tout le lieu des Roches Noires, et veut construire une station à l'anglaise. Il construit son pire, mais... Il n'aura jamais d'argent pour construire le casino qui est tout au bout, qui servira simplement de lieu de débarquement entre Le Havre et donc Trouville. Voilà encore un lieu à l'anglaise, Mayville, donc une station de plaisance anglo-française avec des investisseurs qui viennent des deux côtés et des grands architectes. Thomas Cutler d'un côté, qui est président de l'Ordre des architectes, et Garnier de l'autre. On investit en dehors, puisqu'on commence à faire le plein des stations qui ont du sable, on investit les falaises avec, vous l'avez vu, avec le tramway sur Sainte-Adresse, et là c'est le funiculaire qui permet d'avoir des stations hautes et des stations basses. L'investissement se fait en découpant donc les parcelles, on est actionnaire du chemin de fer, comme ici, on achète des terrains, qu'on revend ici, loti, devant un établissement balnéaire qui est là. Le principe est simple, on met l'architecte ou le promoteur, donc fait un cahier de modèles, distribue ses modèles ici, vous voyez, avec la maquette du lieu. Le futur propriétaire s'assied dans un sofa, est ébloui par le lieu, prend le modèle, téléphone, puisque c'était un poste de télégraphe, téléphone à son banquier pour savoir s'il a suffisamment d'argent, et signé avec son notaire, là, et donc l'affaire est faite ici, et voilà le résultat. C'est-à-dire les éléments qui sont issus du cahier de modèle, et c'est le même plan qui permet d'avoir, avec un petit retour en plus ou en moins, etc., la variété qui est là. Donc vous voyez, la circulation des modèles, puisqu'on m'avait demandé de parler de la circulation des modèles, voilà comment elle se fait. Il faut aussi parler des villes sanatoriums. Le curatif continue pendant cette période-là de façon très importante. On a la tuberculose en ville, il faut enrayer la tuberculose. Et donc d'immenses villes sont construites, mais là, il y a partout, dans la mer Noire et ailleurs, d'immenses villes comme ça, à Odessa ou ailleurs, qui sont des villes de malades, comme à Berck ou ailleurs. Donc il y a cette dimension-là. C'est à cette époque-là également que il y a le renouveau du vélo pendant 10 ans, entre 1892 et 1902, en gros. Et on a des chalets de cycle partout, on vient en chemin de fer et ensuite on fait du vélo. Et aussi, le vélo, on met un moteur dessus, hein, et on peut gravir comme ça les éléments, ou éventuellement les premières voiturettes là-dessus. Les moyens de locomotion permettent de pouvoir faire des ascenseurs, parce qu'il y a des falaises et qu'il faut gravir également, ou bien éventuellement aller entre deux rives. Et le métal est important, on l'a vu pour les pierces, mais aussi pour les jardins d'hiver. C'est la période des grands palaces, qui sont en fait souvent des sociétés où les actionnaires sont aussi actionnaires des moyens de transport. Donc ça permet d'avoir un train entier, 300 personnes, qu'on débarque là, et donc avec des chambres, tout confort, téléphone, salle de bain individuelle, etc. Parallèlement, dans les petites stations, le propriétaire se met en rez-de-chaussée et loue donc l'ensemble de sa maison pendant la période d'été. Les grands casinos, les plus grands casinos européens, comme celui de Royan, pendant quelques années, celui de Renon, ou des casinos fantastiques à l'imitation anglaise, ici, sur la petite jetée promenade de Nice. Troisième période importante, les derniers feux des années folles et le début du tourisme de masse, avec l'automobile, bien étudié pour la côte landaise par Claude Laroche, et le renouveau des premières stations que vous avez vues, avec l'aéroport qui commence à se faire, tout en haut à gauche, le yachting, et on investit ici à Deauville l'ensemble de l'Estran. On édifie donc les planches et on y met les bains pompéiens en 1929, ou ici on crée des petites stations à Donville-les-Bains de la nouvelle génération entre les deux guerres. À Osgore, sur la côte landaise, Claude va nous montrer les lotissements entre le lac et l'océan, la série des petits lotissements avec les projets. Et on va aller avoir les Américains qui vont investir en stations d'été, les stations d'hiver de la Méditerranée. Le rôle des enfants toujours entre les deux guerres et la démultiplication des colonies et vous voyez donc les armées d'enfants. Alors c'était du curatif ou du préventif, mais en tout cas, on a massivement investi ces stations du littoral, on le verra pour l'Italie aussi, entre les deux guerres. Une architecture tout à fait nouvelle, qui est toujours éclectique, une maison méditerranéenne ici à La Baule, mais avec un intérieur de style breton, un bureau à la flamande, et une chambre à coucher bien sûr évoquant Venise, qui permet de pouvoir jouer sur l'éclectisme européen. Dernière période, la prise en main par l'État après la guerre. Bien sûr, l'État prend déjà en main l'ensemble de la construction des bâtiments et de la reconstruction, mais il prend en main le général, armé bien sûr de son ministre de l'Intérieur, mais aussi de l'aménagement du territoire. On crée des missions avec un énarque et également un architecte, Balladur, et ça permet à Jean-François de vous faire un magnifique exposé sur le sujet, mais on voit bien là que autour du balnéaire, c'est la France elle-même qui qui fait son deal, hein. Il faut arrêter les Allemands qui vont en Espagne, et donc on crée réellement, comme on a créé la ligne Maginot, on crée ces unités touristiques un peu pour arrêter les gens du Nord qui ne font que passer en France et qui doivent s'arrêter pour que nous ramener des devises. Voilà dans Paris Match, là, avec le Concorde, les plages futuristes qui permettent d'avoir 1,5 million d'estivants en 75. Voilà les grandes idées gaulliennes là-dessus, avec une architecture aussi futuriste de Balladur, mais on va vous l'expliquer plus loin. Parallèlement à cela, le littoral a été fortement bombardé, et dans des régions comme Royan, bien sûr, on reconstruit. Mais ce gros urbanisme va être combattu par un urbanisme éclaté. On va essayer, notamment sur la côte landaise, d'avoir une architecture de petits hameaux pour ne pas... déjà, il y avait les principes écologiques qui commençaient à se créer, et on va créer des zones de résidence touristique pour contrebalancer les unités touristiques de Languedoc-Roussillon, donc les grandes villes. On va essayer donc d'avoir un urbanisme diffus pour combattre justement ces Marina Baie des Anges qui a fait couler beaucoup d'encre, ces grands murs, ces grands HLM, même s'ils sont un peu mis en forme de vague, et ces marinas qui commencent à apparaître. Voilà ces lotissements paysagers dont on parlait hier un peu, aux formes organiques, c'est tout à fait des projets qui sont pour des petites unités, hein, 400 maisons au maximum, ou des unités comme ici, faites par des associations, l'association familiale Renouveau, qui utilise l'architecture moderne, mais dans des formes totalement ludiques, pour créer des nouveaux villages de vacances. Le grand élément va être donc le resort de Port-Grimaud, une marina à la méditerranéenne, lancée par Françoise Péry, l'architecte promoteur à la fois, et qui va créer pour l'ensemble de l'Europe, mais aussi au Canada, aux États-Unis, etc., une nouvelle forme donc de ville balnéaire. Et l'architecte Diener qui va venir est issu un peu de cette école, et voilà ce qui l'a fait et ce qu'il va faire dans d'autres lieux, en France comme ici à Formaron-Plage, sur la côte Picarde, mais aussi à l'étranger, c'est-à-dire qu'on prend le style néo-régionaliste, mais on l'adapte donc en marina. Et enfin, puisque donc le top a été donné par... Et pour terminer, je voudrais dire que cette architecture et ces bains sont l'occasion, dans le quotidien, de rêver et de faire marcher l'imaginaire. Et donc cette architecture de cabine, de boutique, de Balladur, sur le point zéro, évoque bien au milieu des dunes cette architecture de l'ailleurs. Même si ça devient ensuite des villes du quotidien, comme on en a parlé hier, si ça devient des villes comme à Paris, il reste quand même des morceaux d'imaginaire, de poésie en bord de mer qui sont construits et qui continuent à être conçus pour de nouvelles pratiques de mode de vie avec le bain ou sans le bain de mer. Merci.